Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Une nouvelle interdiction pour les femmes en Afghanistan. Les femmes n'ont plus le droit de voyager seules sur des distances relativement longues. Après la fête de Noël, samedi dernier, regard dans votre édition sur les chrétiens de Gaza avec le professeur de médecine Christophe Oberlin, auteur de « Chrétiens de Gaza » aux éditions Éric Bonnier. Il sera l'un de nos invités. Les élections sénatoriales le 5 février prochain en Algérie. Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, évoquera le mode de scrutin, mais aussi le rôle du président de cette haute assemblée. Il est soupçonné d'avoir fourni du matériel à l'armée syrienne, dont des composants pouvant servir à la fabrication d'armes chimiques. Un franco-syrien à la tête d'une compagnie de navigation a été inculpé en France et incarcéré. Un nouveau conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 aura lieu cet après-midi en France. Une réunion une heure avant le conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi qui instaurera le pass vaccinal. Une nouvelle interdiction pour les femmes en Afghanistan. Les femmes n'ont plus le droit de voyager seules sur des distances relativement longues, 72 kilomètres. Elles doivent être accompagnées par un homme de leur famille proche. Une annonce des talibans, une mesure publiée par le ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, c'est son nom. Cette directive arrive quelques semaines après la demande du ministère aux télévisions afghanes de ne plus diffuser de feuilletons et séries dans lesquelles des femmes apparaissent. Gros plan sur les chrétiens de Gaza au surlendemain de la fête de Noël. Ils représenteraient entre 1500 et 2000 personnes. Le professeur de médecine, Christophe Oberlin, est allé à leur rencontre au fil de ses séjours dans la bande de Gaza. Il est notamment l'auteur de « Chrétiens de Gaza » aux éditions Éric Bonnier. Entretien avec Christophe Oberlin.
Cette présence, elle remonte au premier temps du christianisme, avec une christianisation d'ailleurs qui s'est pas faite directement à partir de Jérusalem, qui est pourtant seulement à 80 kilomètres, mais il y a eu les guerres romaines qui ont véritablement détruit toutes ces populations, et il y a eu une re-christianisation qui s'est passée essentiellement à partir de l'Égypte, à partir de l'église d'Alexandrie. Donc c'est vers le 2e, 3e et 4e siècle surtout que le christianisme a connu son efflorescence à Gaza.
Les chrétiens qui sont restés majoritaires pendant 5 siècles après l'arrivée de l'islam ?
Alors ça, c'est un point très intéressant qui montre bien qu'il ne s'agit même pas d'une coexistence entre chrétiens et musulmans. Il y a un véritable mélange qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu effectivement cette vie commune pendant 5 siècles. Et puis il y a eu le choc des croisades, et le choc des croisades a été fatal, si on peut dire. Il en reste néanmoins des vestiges, et notamment monumentaux, puisque la plus ancienne des mosquées de Gaza, au cœur de la vieille ville, est une ancienne cathédrale croisée.
Donc cette présence chrétienne à Gaza, elle se traduit même dans la pierre.
Elle se traduit dans la pierre et elle se traduit dans le sous-sol. Vous savez qu'à Gaza, on creuse beaucoup, et notamment parce qu'il y a une population importante, 2 millions d'habitants, une très forte densité, et à chaque fois qu'on donne un coup de pelle dans le sable de Gaza, on trouve des vestiges. On est toujours à la recherche de certains vestiges qui ont des mentions historiques, et on en trouvera aussi également dans la mer. On a retrouvé des éléments importants. Donc c'est un paradis, la bande de Gaza, pour l'archéologie. Ça devrait être.
Il existe des figures, des personnages mythiques chrétiens à Gaza ?
Alors, il en existe un certain nombre. Le plus important, c'est Hilarion. Hilarion a fondé véritablement la vie monastique au Proche-Orient. Et son monastère a été identifié, retrouvé, et notamment par Jean-Baptiste Imbert, qui est un chercheur dominicain de l'Institut archéologique et biblique de Jérusalem. Et donc, il existe des vestiges vraiment importants que l'on peut aujourd'hui visiter, qui sont mis à l'honneur, il faut le dire, par l'administration actuelle, qui n'est pas une administration chrétienne, entre guillemets, mais qui en tout cas est très attachée à tout son passé, y compris le passé anti-islamique.
Hilarion qui avait pour maître Saint-Antoine, et justement cette cohabitation aujourd'hui entre les chrétiens et les musulmans à Gaza, vous dites qu'elle est encouragée par l'administration aujourd'hui, cette administration dirigée par le Hamas ?
Oui, alors d'abord, il n'y a pas une communauté chrétienne, il y en a plusieurs, puisqu'on retrouve finalement à Gaza toutes les branches de l'arbre généalogique du christianisme. 90% des chrétiens sont des orthodoxes, et donc il n'y a à peu près que 10% de latins. Donc c'est une liturgie différente, c'est des moments de célébration différents, des fêtes différentes. Bien entendu, il y a des communications entre tout cela, mais en tout cas, il y a une communication complète avec ce qu'on peut appeler la communauté musulmane, y compris les autorités politiques. D'ailleurs, j'étais en communication ce matin avec un ami qui s'appelle Jamil Tarazi, qui est un chirurgien de Gaza, chirurgien comme moi, on s'est connus là-bas. Eh bien, il fait partie des 9 membres du conseil municipal actuel de la ville de Gaza. Donc, il n'y a aucune antinomie, et je dirais même que, à l'occasion du travail que j'avais pu faire sur cette communauté chrétienne, plusieurs fois on m'a dit « mais nous sommes en sécurité encore plus que les autres » parce que les autorités savent bien que si on touche un cheveu d'un chrétien à Gaza, tout l'Occident va s'enflammer. Donc il y a véritablement une solidarité totale.
Donc vous nous dites qu'ils sont protégés. Combien sont-ils aujourd'hui ?
C'est difficile à dire parce qu'il y a ceux qui s'en vont, il y a les naissances, il y a une immigration interne, certains chrétiens cherchant à se rapprocher des lieux saints, car le passage, la question des permis par Israël pour aller sur les lieux saints était un véritable casse-tête. Certains émigrent, c'est même le principal lieu d'émigration, vers la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'ils vont de Palestine en Palestine. Globalement, on pense qu'ils sont 1500 environ, donc 9 sur 10 étant des orthodoxes. Il y a un espèce de renouveau de l'Église latine, et notamment à travers des écoles qui se sont largement développées depuis 1994.
Il existe des écoles chrétiennes aujourd'hui à Gaza ?
Il y a 3 ou 4 écoles chrétiennes. Ce qu'il faut savoir, bien entendu, c'est que 90% des élèves et autant le même pourcentage des enseignants sont des musulmans. C'est-à-dire que ce ne sont pas des écoles réservées aux chrétiens avec des enseignants chrétiens. Je dirais que seule la tête est chrétienne. C'est un petit peu, ce sont des écoles, il y a des bourses, il y a tout ce qu'on veut. Elles sont aidées par des communautés chrétiennes de par le monde. Mais il n'y a aucune ségrégation, et en particulier la génération des gens 50-60 ans, par exemple, avant que ces écoles ne connaissent le développement actuel, eh bien, a été entièrement formée dans les écoles gouvernementales, dans les écoles publiques. Et aujourd'hui, il y a des passerelles, certaines filières existant à l'école chrétienne et d'autres uniquement dans les écoles gouvernementales. Donc il y a un mélange.
Alors, je ne sais pas si vous avez déjà passé Noël à Gaza, et si c'est le cas, quelle est l'ambiance et comment cette fête chrétienne est-elle célébrée par l'ensemble de la population et de ses composantes ?
Alors, c'est fêté de façon très différente, parce que déjà, les orthodoxes fêtent Noël le 7 janvier. Vous voyez, il y a une histoire de cohérence entre les calendriers juliens et grégoriens. Donc c'est le 7 janvier qui a la célébration religieuse, si vous voulez. Alors, Noël, bien entendu, le 24-25 décembre, s'attend à devenir une fête un petit peu mondiale, qui est la fête des enfants et aussi des commerçants. Et par exemple, Jamil Tarazi, que j'avais au téléphone tout à l'heure, me disait qu'on n'avait jamais vu autant de guirlandes de Noël dans les devantures des boutiques à Gaza, et autant d'arbres de Noël, qui sont évidemment pas des arbres de Noël locaux, parce qu'il n'y a pas de sapin à Gaza, mais c'est des arbres artificiels qui viennent de l'étranger, de Chine ou d'Égypte. Donc il y a une certaine festivité, je dirais relativement laïque et républicaine, si j'ose dire, les commémorations se faisant le 7 janvier. Par contre, à l'Église latine, alors là c'est un tout petit nombre de personnes, l'Église de la Sainte Famille, vous avez la messe le dimanche et vous avez les commémorations de Noël comme en Occident.
Il existe une solidarité des chrétiens vis-à-vis des autres composantes de la population gazaoui et vis-à-vis des musulmans ?
Il existe une solidarité totale. Il y a par exemple un hôpital qui est un hôpital initialement anglican et puis qui a été repris par les baptistes et qui soigne des musulmans. Vous voyez, tout ça est complètement mélangé. Il y a une solidarité au moment des coups durs, au moment des attaques israéliennes. Eh bien, il y a eu jusqu'à 1500 personnes qui se sont réfugiées dans la principale église de Gaza en se disant qu'elle ne serait peut-être pas bombardée. Vous voyez, donc, il y a des tas d'exemples de solidarité, des repas, des hébergements. Et on peut remarquer qu'au cours des différentes guerres, eh bien, le nombre de chrétiens tués correspond exactement à la proportion des chrétiens dans la population. Non, il n'y a pas de différence. Quand vous posez la question dans un lycée de 1000 élèves aux enseignants, où ils sont une trentaine, combien il y a de chrétiens parmi vous, ils sont obligés de se regarder, de compter sur les doigts, c'est-à-dire qu'ils se côtoient tous les jours sans se voir comme chrétien ou musulman, mais uniquement comme enseignant.
Le professeur de médecine Christophe Oberlin, auteur de « Chrétiens de Gaza » aux éditions Éric Bonnier. Une découverte macabre sur la côte ouest libyenne. Les corps sans vie de 28 exilés ont été trouvés après le naufrage de leur embarcation. Les équipes du Croissant Rouge ont retrouvé 3 survivants. Ce drame survient quelques jours après l'annonce de la mort de 160 migrants en une semaine après le naufrage de leur embarcation au large de la côte ouest libyenne. Depuis le début de l'année, environ 1500 exilés sont morts au large de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les opposants au pouvoir militaire issus du coup d'État au Soudan continuent de défier les putschistes. Des dizaines de milliers de Soudanais ont de nouveau essuyé des tirs de grenades lacrymogènes au Soudan samedi. La foule était parvenue aux portes du palais présidentiel de Khartoum, où siègent les autorités de transition. Elle a été dispersée sous les coups des charges policières. Les autorités avaient une nouvelle fois coupé les communications après 2 mois d'une répression qui a fait au moins 48 morts. Un procureur algérois a requis hier 3 ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars contre un opposant algérien. Fethir Hares a été écroué fin juin, notamment pour offense au président Abdelmadjid Tebboune, outrage à corps constitué et diffusion d'informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à l'ordre public. Fethir Hares avait été arrêté le 30 juin dernier et placé donc le lendemain sous mandat de dépôt. Les élections sénatoriales le 5 février prochain en Algérie, le scrutin pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement algérien. La haute assemblée est composée de 144 membres, dont 96 sont élus au suffrage indirect parmi les élus au niveau des assemblées populaires des wilayas pour un mandat de 6 ans. Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, revient tout d'abord sur le mode de scrutin.
C'est un système donc indirect, l'élection se fait donc au niveau local, c'est-à-dire c'est les élus locaux, ceux des wilayas. Et des wilayas en Algérie, il y a 58 wilayas, les wilayas en Algérie, c'est les départements, et également des 1541 communes, qui sont donc les communes dépendantes de chaque wilaya. Chaque wilaya a un nombre limité de nombre de communes. Cette élection se fera par les élus locaux, qui doivent désigner des candidats qui se présentent localement, des candidats de plusieurs partis. J'imagine il y aura le FLN, Front de Libération Nationale, qui a, si vous voulez, gagné les élections législatives dernières. Il y a aussi les élections locales aussi. Il y a le Rassemblement National Démocratique, le parti, le mouvement de la société pour la paix, le mouvement Albina, le mouvement Al-Mustaqbel, le Front des Forces Socialistes et d'autres partis. Donc les candidats de ces partis au niveau local doivent être élus, obtenir le maximum de voix des élus locaux pour être donc désignés au Conseil de la Nation.
Et le président du Conseil de la Nation a un rôle particulièrement important, notamment en cas d'empêchement du président de la République.
Oui, déjà on a eu ce cas par le passé après la démission du président Bouteflika en avril 2019. Il a été remplacé par Abdelkader Bensalah, qui était à l'époque président du Conseil de la Nation. Et dans le système de l'État algérien, le président du Conseil de la Nation, c'est le deuxième personnage de l'État. Ce n'est pas celui de la Chambre basse. Celui de la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée populaire nationale APN, est le troisième personnage. Le quatrième, c'est le président de la Cour constitutionnelle, et le cinquième, c'est le Premier ministre. Et donc, dans le cas, effectivement, d'empêchement pour cause de maladie ou pour cause de décès, le président du Conseil de la Nation remplace le chef de l'État, qui n'est pas donc en mesure de diriger le pays. Sa disposition est prévue dans la Constitution, qui a été longuement d'ailleurs discutée après la démission du président Bouteflika, après le mouvement de contestation populaire en avril 2019. Et donc, le président du Conseil de la Nation, qui n'a pas le droit de se présenter candidat à l'élection qui suivra, c'est-à-dire l'élection anticipée après les cas d'empêchement, il doit gérer le pays pendant 90 jours et durant cette période de 90 jours, les élections présidentielles anticipées doivent être organisées. Donc c'est un personnage effectivement qui peut jouer un rôle important dans le cas d'empêchement du président. Et parfois, le chef de l'État même en exercice peut déléguer le président du Conseil de la Nation pour le représenter dans des manifestations à l'étranger ou à l'intérieur du pays.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Il est soupçonné d'avoir fourni des matériels à l'armée syrienne, dont des composants qui peuvent servir à la fabrication d'armes chimiques. Un franco-syrien à la tête d'une compagnie de navigation a été inculpé en France et incarcéré. C'est la première fois qu'une inculpation intervient dans une enquête en France sur des soupçons de soutien à l'armée syrienne. Les faits qui lui sont reprochés ont débuté en mars 2011, au début de la guerre en Syrie, et se seraient poursuivis jusqu'en janvier 2018 ou juin 2019, selon les crimes visés. Une œuvre en hommage aux victimes algériennes du 17 octobre 1961 a été dégradée à Ivry, près de Paris, il y a deux mois, à l'occasion des 60 ans du massacre de manifestants algériens. Un artiste avait peint au pochoir sur un mur de garage un portrait de l'une des victimes. Un nouveau conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 aura lieu cet après-midi, une réunion une heure avant le Conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, le texte sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès mercredi avant d'aller au Sénat à partir du 5 janvier. Sa mise en œuvre est prévue le 15 janvier prochain. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 16, à midi 30 votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Florentin Letissier, élu écologiste du 14e arrondissement de Paris, maire adjoint de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la trajectoire zéro déchet, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Orient.